Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Alla demander au roi un vaisseau brillant comme le soleil. Quand il fut terminé, il s'embarqua dedans avec son équipage et, suivant les indications de la jument blanche, il vint mouiller en vue du château de la Belle aux Clés d'Or. La princesse était à sa fenêtre et elle regardait le navire. « Bonjour, princesse, » lui dit le jeune homme. « Bonjour, sire, » répondit la Belle aux Clés d'Or qui prenait le berger pour un roi. « Je suis venu pour visiter votre château. Voulez-vous le permettre ?»«
Oui. »
répondit-elle. Quand il eut parcouru tout le château, elle le fit boire et manger et lui dit « Eh bien, en avez-vous d'aussi beau dans votre pays ?»«
Non, répondit-il, mais si vous voulez venir à bord de mon navire, vous conviendrez qu'il n'a pas son pareil. »
« J'irai, dit la princesse, le visiter dans 2 heures. » Il retourna à son bord et commanda à ses matelots de tout préparer pour l'appareillage et de lever l'ancre pendant que la princesse serait occupée à regarder le navire. La Belle aux Clés d'Or arriva sur le vaisseau, le jeune homme le lui fit visiter en détail, et lorsqu'elle remonta sur le pont, la terre était déjà bien loin. Quand la princesse vit qu'on l'emmenait, elle se mit à crier et à s'arracher les cheveux. « Malheureux, lui dit-elle, pourquoi m'as-tu trompé ?»«
Je suis venu, répondit-il, vous chercher par l'ordre du roi, et si je n'avais pas réussi, il m'aurait tué. »
La princesse, de colère, jeta ses clés d'or à la mer et le vaisseau, continuant sa route, arriva au port et salua la ville qui répondit par une salve de 21 coups de canon. Quand le roi vit la Belle aux Clés d'Or, il fut bien joyeux et il voulut se marier avec elle, mais elle ne pouvait pas le souffrir et le rebutait toujours. « Je ne vous épouserai, lui dit-elle, que si vous me remettez les clés d'or de mon château. » Le roi fit venir son patour et lui dit « Tu as amené ici la princesse. Maintenant, il faut que tu me rapportes ces clés d'or, ou il n'y a que la mort pour toi. » Le patour alla trouver sa jument blanche. Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait vue, et elle commençait à être malade de chagrin. Mais il la caressa, et elle en fut tout un coup guérie. Comme il avait la mine triste, elle lui demanda pourquoi il se chagrinait encore. « J'ai ramené la Belle aux Clés d'Or, » répondit-il. « Maintenant, il veut que j'aille chercher ses clés qu'elle a jetées à la mer. »
« S'il n'y a que cela, » dit la jument blanche, « tu peux te consoler. Demande au roi de te faire construire un navire de petite taille mais bon marcheur. Tu mettras à l'arrière une pierre bien droite, et quand tu seras à peu près rendu à l'endroit où la Belle a jeté ses clés d'or à la mer, tu frapperas 3 coups sur la pierre avec cette baguette. Tu verras alors sortir de l'eau un petit homme qui menacera de te dévorer, mais ne t'effraie pas et frappe-lui sur la tête avec ta baguette jusqu'à ce qu'il ait jeté les clés sur le pont du navire. » Le patour alla demander au roi un navire petit mais bon marcheur et il s'embarqua à bord pour se rendre à l'endroit où la princesse avait lancé ses clés à la mer. Quand il y fut, il frappa 3 coups de baguette sur la pierre qui était dressée bien droite à l'arrière. Aussitôt, il vit sortir de la mer un petit homme qui ouvrit une grande bouche en criant « Je vais te manger, je vais te manger !» Mais le jeune homme se mit à lui frapper des coups de baguette sur la tête en lui disant « Si tu ne vas pas me chercher les clés d'or que la princesse a lancées dans la mer, je vais continuer à te battre. » Le petit homme plongea dans l'eau et il en rapporta les clés d'or qu'il jeta sur le pont. Aussitôt, le navire se remit en marche et il ne tarda pas à arriver au port qu'il salua avec son artillerie. Quand le roi eut les clés, il fut bien content et il les donna à la princesse en lui disant « Maintenant, vous allez vous marier avec moi. »
« Non, répondit-elle, si vous voulez que je vous épouse, il faut que celui qui a été chercher les clés amène ici mon château. » Le roi fit venir son patour et lui dit « Tu vas aller chercher le château de la princesse et l'amener. Si tu ne le fais pas, il n'y a que la mort pour toi. » Le jeune homme était bien triste. Il retourna à la pâture où était la jument blanche, mais elle avait maigri et semblait presque morte. « Je croyais, lui dit-elle, que tu allais me laisser mourir. C'est bien mal de ta part. » « Moi qui t'ai sauvé quand tu étais chez le diable. »«
Oh, répondit-il, j'ai été si content d'être revenu que je t'avais oublié. Le roi m'a ordonné d'aller chercher le château de la Belle aux Clés d'Or, mais cette fois je crois bien que ma mort est au bout.
« Non, dit-elle, ne t'effraie pas. Tu vas demander au roi de faire construire un navire le plus grand qu'on pourra faire. Tu le chargeras de vin et de mets délicieux et tu retourneras au château. Tu verras les géants qui le portent sur leur tête et après leur avoir donné à manger, tu leur diras de venir avec toi dans ton pays. »
Le roi fit construire pour son berger un navire le plus grand qui eût été fait. On le chargea de vin et de mets délicieux et il se mit à la voile pour aller dans l'ouest-nord-ouest au château de la Belle aux Clés d'Or. Quand le jeune homme y arriva, les géants qui soutenaient le château sur leur tête avaient si grand faim qu'ils allaient se battre pour se manger. Il fit débarquer les vins et les vivres et les géants se régalèrent. Ils vidaient par la bonde les barriques de vin et mangeaient un bœuf à chaque fois. « Vous êtes meilleur que notre maître, lui dirent-ils, il nous laisse crever de faim. »« Si vous voulez venir dans mon pays, répondit-il, je vous donnerai à manger tant que vous voudrez. Le château que vous portez vous paraît-il bien lourd ?»«
Non, il ne pèse pas plus qu'une plume. Voulez-vous l'emporter avec vous ?»«
Oui, volontiers. » Il embarqua les géants qui portaient le château sur leur tête, et quand il arriva, il les fit débarquer et les conduisit à la Belle aux Clés d'Or.
Dans cet épisode, vous ferez la connaissance d'un jeune patour qui fait la conversation à sa jument blanche d'une Belle aux Clés d'Or, résidant sur une île mystérieuse dans un château d'or, d'un roi bien capricieux et de quelques bons gros géants, comme dirait Roald Dahl. Avant de commencer, je vous rappelle les règles du jeu. Tentez de décrypter, avec l'aide du docteur Dominique Desmichel évidemment, ce conte comme s'il s'agissait d'un rêve. Et je vous rappelle que l'intégralité du conte est disponible sur notre site internet www.radiograndciel.fr, rubrique règlement de compte. Bonjour docteur Dominique Desmichel.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre la suite de notre histoire. Le prince arrive au pays de la Belle aux Clés d'Or, fait sa connaissance, mais reste très sobre, absorbé par sa mission. On est encore vraiment notre anti-héros, j'ai envie de dire, manque véritablement de volonté et puis d'initiative. Hein. Bonjour, bonjour princesse, bonjour. Ça s'arrête là, hein. C'est pas le coup de foudre, hein.
Non, c'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas très très bien quand même là où on en est. Il vient quand même pas pour séduire la belle, hein, pour l'instant. Il est plutôt pas très très sexué, hein, notre jeune.
Oui,
notre
c'est bien son problème, héros. J'ai l'impression, hein, depuis le début. Hein.
Il est pas très sexué. Il s'occupe de ses brebis. Bon, les brebis, c'est presque des mères, hein, plus voilà. Et puis, mais comme vous le dites, en effet, c'est ni très glamour, ni rien du tout.
Oui, il arrive quand même dans un château en or, on s'imagine la Belle aux Clés d'Or qui doit être magnifique, évidemment.
Oui.
Lui, il se contente du strict minimum, en tout cas. Hein.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il ne dit pas qu'il a envie de la rencontrer, hein. Il lui dit « j'ai envie de visiter votre
Exactement,
château ».
Exactement, voilà. Il met en place son petit subterfuge.
Oui, oui.
Alors donc, je suis venu pour visiter votre château, lui dit-il. Il parcourt le château, il boit, il mange. Et ensuite, eh bien, la Belle aux Clés d'Or l'interroge sur le pays d'où il vient. Eh bien, je viens d'un pays magnifique, dit-il également. Et voulez-vous venir à bord de mon navire ? Vous conviendrez qu'il n'a pas son pareil, lui dit le prince. « J'irai, dit la princesse, le visiter dans 2 heures. » Alors, eh bien, comme on vient de l'entendre, hein, la princesse se rend sur le bateau et le jeune prince en profite pour mettre les voiles. On imagine bien que c'est sur les conseils de sa jument blanche. Ça ne lui serait pas venu à l'idée tout seul, même si ce n'est pas dit. Alors,
En tout cas, il y a une certaine symétrie, puisque la princesse, elle est là avec son grand château magnifique, porté par les géants, et lui, il est avec son petit château mobile, représenté ici par son vaisseau. Hein. Donc, elle dit qu'elle a un château sur la terre, qui est très beau, et lui, il dit qu'il a un beau vaisseau. C'est l'équivalent de son château à lui. Hein. Et d'ailleurs, il fait la comparaison, et puis il l'invite. Ouais.
Alors, on voit tout de suite la personnalité de la Belle aux Clés d'Or. Moi, ça me fait penser à cette publicité qui passe en ce moment. Un bijou vaut mieux qu'un bisou. Elle est attirée tout de suite par le vaisseau en or. Là, elle est intéressée, hein, beaucoup plus d'ailleurs que par le jeune prince. Hein. On l'imagine. On l'imagine peut-être pas vénale, hein, mais en tout cas attirée par ce qui brille.
C'est possible. C'est possible. Ouais.
Alors, la belle aux clés d'or arrive sur le vaisseau, le jeune homme lui fait visiter en détail, et lorsqu'elle remonte sur le pont, évidemment, la Terre était déjà bien loin. Et quand la princesse vit qu'on l'a emmenée, elle se mit à crier et à s'arracher les cheveux. « Ah, malheureux !» lui dit-elle, « pourquoi m'as-tu trompé ?»« Je suis revenu, répond le prince, vous cherchez par l'ordre du roi, et si je n'avais pas réussi, il m'aurait tué. » Alors la princesse de colère jette ses clés d'or à la mer. Voilà. On ne sait pas trop pour quelle raison.
Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle, en tant que personne, elle est prisonnière au moins du désir du roi et qu'elle s'est fait avoir par le jeune prince, qu'elle tutoie d'ailleurs, hein, alors qu'elle l'appelait sire au début. « Bonjour sire », répondit la belle. Là, elle le tutoie, elle n'est pas très contente.
Vous voulez dire comme si déjà il rentrait dans une espèce d'intimité ?
Oui.
De familiarité, en tout cas.
Elle, oui. Lui, il continue à la vouvoyer, en tout cas. Hein. Et en tout cas, il lui rappelle « Je suis venu vous chercher par l'ordre du roi. Hein. » Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait tué. C'est-à-dire, au fond, je ne viens pas par amour, mais je viens par crainte. Hein. Enfin, bon, on peut le comprendre, hein, mais c'est-à-dire que dans la santé, si on se place à un niveau plus psychique, la santé du royaume... Et la santé du roi, dans une certaine mesure, ou la santé du roi et donc, dans une certaine mesure, la santé du royaume, nécessite, au fond, qu'il y ait un principe féminin qui revienne dans le royaume.
Alors, la belle jette ses clés d'or à la mer. Vous nous aviez parlé dans la précédente émission, docteur Dominique Michel, mais vu que c'est un moment important du récit, ces clés sont un objet, bien sûr, qui donne le titre à ce récit. Vous pourriez nous rappeler ce que vous en avez déduit de ces clés
Ce qui me semble, c'est
votre hypothèse.
Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est les clés de son royaume à elle, hein, les clés de son château. Donc si c'est les clés de son château, j'aurais tendance à penser que par ce geste-là, elle dit que peut-être elle est prisonnière du roi, mais que en tout cas, elle ne va pas donner l'accès à son intériorité. Donc si on le place dans une perspective d'un masculin et d'un féminin, je dirais avec la perspective de noces symboliques ou de noces incarnées aussi, bien évidemment, Elle n'ouvre pas son corps. Hein. C'est-à-dire, elle ne donne pas accès à son corps, à mon avis.
Son cœur ou à son cœur ?
Son cœur et son corps.
Les deux, d'accord.
Hein, les deux, à mon avis. C'est-à-dire, vous m'avez retenu...
Physiquement, vous pouvez me prendre,
voilà.
Mais ça voilà. S'arrêtera là, quoi.
Voilà, exactement. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est effectivement ce qui se passe, puisque quand le roi voit la belle aux clés d'or, je cite le texte, « Il fut bien joyeux, il voulut se marier avec elle, mais il ne le pouvait pas. Mais elle ne pouvait pas le souffrir et le rebuter toujours. » Alors, la belle aux clés d'or lui lance ce défi. « Je ne vous épouserai que si vous me remettez les clés d'or de mon château, qui sont bien évidemment quelque part au fond de l'océan. » Alors, tout de suite, on voit, docteur Dominique Desmichel, une antipathie entre le roi et puis la belle aux clés d'or. Ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas marcher.
Et en même temps, on a envie de se dire, elle, pourquoi elle... Pourquoi elle leur demande ? Elle pourrait se dire, elle pourrait se dire, bon, ben voilà, les clés, elles sont au fond de l'eau, vous les aurez jamais, c'est-à-dire, elle pourrait dire au roi, ben, cours toujours, hein, tu peux m'épouser, mais de toute façon, tu peux peut-être me forcer, mais de toute façon, tu auras jamais mon cœur, hein, voilà, il y aura jamais de lien entre nous deux. Et en même temps, elle dit qu'il faut lui remettre les clés. Donc, comme si, au fond, elle sentait qu'il y avait quelque chose d'autre, et on peut imaginer, en tout cas, qu'elle a pu être touchée par le jeune prince, hein, ou par le patour en l'occurrence. Et donc, elle anticipe le fait que le roi va redemander au prince d'aller retrouver les clés, en se rappelant que là aussi, sur le plan symbolique, le jeune prince, ou le patour, ou le berger, hein, qui s'occupe des brebis, peut représenter aussi la partie la plus dynamique et la plus vivante du royaume ou la plus vivante du roi. Hein, vous voyez, donc on est aussi dans cette même lecture comme au niveau des rêves, où on dit, on va lire ça au niveau de l'objet, c'est-à-dire le roi représente par exemple une figure paternelle et le jeune prince ou le patour représente une figure de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte jeune, mais aussi que chaque personnage peut représenter une partie du rêveur. Hein. Donc si c'était quelqu'un qui rêvait, on pourrait très bien imaginer que le roi représente quelque chose d'une figure intérieure de son père, et que le patour représente une partie de lui-même en devenir, une partie en quête d'une identité et en quête d'un royaume et en quête d'un lien profond pour l'existence.
Alors évidemment, le pâture est la figure vivante de ce conte, mais vivant par procuration, car évidemment, il se remet à se lamenter. Hein, donc nous nous retrouvons dans la même posture qu'auparavant, quand le roi lui ordonne d'aller chercher la clé d'or sous peine de mort. Alors le pâture retourne à sa jument blanche, et là je vous cite le texte. « Il y avait longtemps qu'elle ne l'avait vue, et elle commençait à être malade de chagrin. Mais il la caressa, et elle en fut tout d'un coup guérie. » Ça, c'est étonnant, ça, cette partie du conte, docteur Dumas.
Ah oui, moi, je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que on a envie de se dire que la jument représente quelque chose d'important sur le plan symbolique pour ce pâture, et que lui, il s'en occupe pas, hein, parce qu'elle, elle aurait pu être là, les brebis vont bien, la jument va bien. Non, il ne s'occupe pas de la jument, et donc elle dépérit. Et à partir du moment où il reprend un lien avec cette jument, uniquement parce qu'il est dans le besoin, uniquement parce qu'il y a l'ordre du roi, alors elle retrouve une fonction, elle retrouve la santé.
Alors cette relation là qui s'affine, enfin, on en comprend un petit peu plus entre la jument blanche et le jeune pâture, à quoi pourrait-elle ressembler maintenant ? On a envie de voir la figure de l'amour, tout simplement, avec une jeune femme qui dépérit loin d'un homme qui n'a pas la même réciprocité dans ses sentiments.
Voilà, il faut se rappeler quand même que ce féminin est encore à un stade animal, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une figure de femme ou de jeune femme ou de princesse, hein, dans ses représentations humaines donc d'un féminin, mais que en effet cette belle-là, elle l'attend. Donc on espère, on se dit que bon ben un de ces jours, voilà, ils vont faire couple tous les deux, et puis on peut imaginer, vous voyez, que lui, il va le, je sais pas, si on reprend dans une thématique de conte, voilà, comme le prince changé en grenouille, ou comme dans La Belle et la Bête, voilà, à partir du moment où la belle, elle aime la bête, elle redevient humaine. À partir du moment où la belle princesse embrasse le crapaud se retransforme en prince charmant. Donc là, on aurait pu se dire, lui, s'il avait un vrai sentiment affectif vis-à-vis de sa jument, eh bien peut-être qu'elle aurait pu se transformer en princesse.
Oui, n'oublions pas le moteur de tous les contes, c'est-à-dire ce déséquilibre entre deux forces qui tend à se rééquilibrer à la fin du conte, en règle générale en tout cas.
Voilà. Et aussi dans cette dimension toujours pulsionnelle qu'il y a à l'intérieur de soi. Hein. Pensons à Hansel et Gretel, par exemple. Qu'est-ce que vient dire Hansel et Gretel ? C'est que l'oralité dévoratrice, elle est problématique. Hein. Voilà, avoir mangé pour se nourrir, manger pour se faire plaisir, ça va. Mais que quand l'oralité en vient à ce qu'on dévore ce qui vous protège, en l'occurrence la maison, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, le jeune prince se lamente auprès de la jument blanche, qui va lui trouver la solution. Et là, je vais encore vous citer le texte. « Demande au roi de te faire construire un navire de petite taille, mais bon marcheur. Tu mettras à l'arrière une pierre bien droite, et quand tu seras à peu près rendu à l'endroit où la belle a jeté ses clés d'or, tu frapperas 3 coups sur la pierre avec cette baguette. Tu feras sortir de l'eau un petit homme qui menacera de te dévorer, mais ne t'effraie pas, et frappe-lui sur la tête avec ta baguette jusqu'à ce qu'il ait jeté les clés sur le pont du navire. » Docteur Dominique de Michel, nous voilà encore face à une énigme, une espèce de rébus. Alors, mon premier est un navire mâcheur, mon deuxième est une pierre bien droite, et mon troisième est un petit homme qui menace de dévorer le jeune prince. Mon tout est la solution pour retrouver la clé d'or. Je vous laisse démêler cette énigme.
C'est pas très simple. On retrouve toujours la figure du déplacement. Il faut aller voir dans un ailleurs. Cet ailleurs nous est déjà connu puisqu'il est la demeure de la belle aux clés d'or. Et là, il s'agit de quelque chose de plus petite taille, mais il faut être quand même bon marcheur. Les pierres, moi, je me demande s'il faut pas rapprocher ça des diamants. Et alors, comment on peut essayer de réfléchir à cette figure du petit homme ? C'est un petit homme qui vient de la mer. On a envie de reprendre le tout début du conte. Je ne me souviens plus exactement le début du conte.
Oui, mais avec un petit homme, pareil, avec de grandes dents qui voulait le dévorer.
Voilà, donc là...
Qui représentait le diable.
Voilà. Donc moi, j'aurais un peu tendance ici à penser que là, c'est aussi une autre figure du diable. Mais que cette figure du diable, elle appartient probablement, en tout cas, à la princesse. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait aussi, chez la princesse, une figure masculine qui pourrait être dangereuse. Hein. Et donc, la jument qui, elle, est ce principe féminin, a priori, jusqu'à maintenant, en tout cas, une figure féminine porteuse, dans le sens concret, puisqu'elle est la jument qui porte le cavalier, mais aussi symbolique, elle sait, au fond, qu'il y a quelque chose qui est dangereux ici. Et donc, elle vient désigner le fait que dans la figure de la Belle au Bois dormant, il y a une forme d'ambivalence, puisqu'il y a ce personnage négatif qui pourrait dévorer, c'est-à-dire, c'est une figure de diable, mais les figures de dévoration, c'est le plus souvent quand même des figures aussi féminines et des figures de mère dévorante. Hein, sur le plan, voilà, on retrouve ça essentiellement dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Nous avions déjà parlé sur ces ondes ici. Le Petit Chaperon Rouge, où le loup représente, à mon avis, une louve, c'est-à-dire en gros une mère dévorante qui a envie de garder ses enfants pour elle et qui les remet en permanence à l'intérieur de son utérus. Hein. Voilà, je vais vous donner un exemple hier de ma consultation. Ici, un couple, enfin pas un couple, c'est mon lapsus en dit long, une mère et son fils qui étaient là. Le fils, il devait avoir une vingtaine d'années à peu près. Il faisait des études son apprentissage. Et au fond, il venait parce qu'il a eu une petite maladie bénigne. Et c'est tout le temps sa mère qui parlait. Et à la fin, c'était presque encore plus comique parce qu'elle a sorti la carte vitale de son fils. Elle a sorti le carnet de chèques de son fils. Elle a rempli le carnet de chèques. Et juste à la fin, elle a tendu le carnet de chèques à son fils pour que lui mette sa signature. Vous voyez ? Donc là, il s'agit... Je ne juge absolument pas les relations entre cette mère et ce fils. Voilà, peut-être lui s'en sortira, peut-être elle l'aime bien et elle lui apporte des tas de choses positives. Mais là, on était dans une figure, c'est à la fois du clin d'œil, mais c'est pour mettre en situation qu'on comprenne ce que je veux dire quand je parle de ces mères dévoreuses. C'est-à-dire, c'est de ces mères qui ont envie encore de garder profondément leur fils dans leur ventre ou dans leur sac à main. Et en l'occurrence, ici, il y avait les objets du fils, la carte vitale et le carnet de chèques.
Ce petit diable, on pourrait dire, donc qui sort de la mer, ceci dit, il est facilement domptable, hein, en quelques coups de baguette, et puis il est beaucoup moins féroce que celui du début de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution à ce niveau-là ? Qu'il a appris à dompter certaines parties sombres de lui-même ?
C'est intéressant parce que ce petit diable, il annonce la couleur. Hein, je vais te manger, je vais te manger. Mais l'autre lui dit, va chercher les clés, sinon je continue à te battre. Continuer à te battre, ça veut dire que le conflit, il existe. Hein, parce que sinon l'autre, ben, il repart au fond de l'eau et puis il ne revient pas. Hein, on pourrait se dire, il n'a pas besoin de revenir se battre. C'est tout. Donc là, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est-à-dire il y a un conflit, en effet, entre le personnage masculin et puis, à mon avis, ce qui appartient à la belle aux clés d'or.
Poursuivons notre histoire, le prince donc retrouve les clés en or, les ramène au roi, et le roi, bien sûr, bah, demande son dû, entre guillemets, hein, à la belle aux clés d'or et la demande en mariage. Mais celle-ci, évidemment, n'est pas d'accord, et cette fois-ci, elle demande d'aller carrément chercher le château. Alors, évidemment, on voit la progression, hein, de plus en plus difficile, une clé au milieu de l'océan, elle a carrément un château à ramener. Le prince, toujours aussi peu dégourdie, j'ai envie de dire, hein, retourne voir la jument blanche. Elle avait encore maigri, elle semblait presque morte, dit le texte.
Et juste avant, j'ai envie de revenir, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais peut-être ça m'apparaît en tout cas plus maintenant. Quand le roi fit venir le patour, il lui dit « Si tu ne le fais pas, il n'y a que la mort pour toi ». Alors, je pense que ça vaut le coup de l'interpréter à deux niveaux. La première, c'est « T'as intérêt à m'obéir, sinon je te coupe la tête ». La deuxième, à un niveau psychique, c'est « De toute façon, toi, pour continuer à rester vivant dans ton parcours, il faut que tu réussisses cette épreuve. Hein ». Donc le roi peut être ici une figure relativement porteuse, on va voir ce que ça donne pour la suite, j'en sais rien, relativement porteuse, et il lui dit « Il faut que tu accomplisses ça hein ». Vous savez que dans les contes, très souvent, il y a une, deux, puis trois étapes qu'il faut franchir, que ça soit aller arracher un poil de cheveux sur le crâne du diable, d'aller trouver un trésor au pied d'un arbre, que ce soit enlever une pierre ou un crapaud d'une fontaine qui ne donne
ça
plus.
Ça marche souvent par trois, effectivement.
Voilà, hein, y a souvent ces rites qu'il faut accomplir pour se sortir. Et l'idée du trois, c'est vraiment l'idée du personnage tiers. Hein. Le personnage tiers, c'est lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, le personnage tiers, ici, va intervenir comme potentiel médiateur entre les deux personnes à l'intérieur du conflit.
Alors voilà ce que lui conseille la jument blanche pour sauver sa tête. « Tu vas demander au roi, dit-elle au prince, de te faire construire un navire. Le plus grand qu'on pourra faire, tu le chargeras de vin et de mets délicieux, et tu retourneras au château. Tu verras les géants qui le portent sur leur tête, et après leur avoir donné à manger, tu leur diras de venir avec toi dans ton pays. » Docteur Dominique Desmichel, là, le vin, les mets délicieux, les géants.
Je trouve que c'est aussi intéressant parce que, juste comme vous l'avez rappelé, la jument blanche, elle avait maigri et semblait presque morte. Et ce qu'il y a après, c'est du côté de l'oralité. Hein. Donc cette jument, c'est comme si elle parlait aussi d'elle-même. Alors vous voyez qu'il y a une sorte de vraiment de parallèle entre un féminin instinctif, un féminin archaïque, un féminin animal représenté par la jument, qui est vivante potentiellement, voilà, qui est porteuse de sens, porteuse de signification, porteuse de direction, porteuse de vie. Et puis la princesse qui apparaît ici comme un petit peu la casse-pied de service et qui en demande toujours plus. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est apporter de quoi bien se nourrir.
Alors on avait la belle aux clés d'or, ensuite nous avons eu la clé, les clés en or, et maintenant nous allons avoir le château en or. On a l'impression que ces trois éléments s'imbriquent pour constituer une seule personne, et sans l'un de ces trois éléments, la personne n'est pas complète.
Oui, je crois, il y avait la belle, il y avait les clés, il y a le château.
Le château, qu'est-ce que ça va représenter de la belle? C'est l'endroit où elle habite, c'est l'endroit, oui. Son intimité, c'est...
Voilà, peut-être son corps aussi, hein, comme on le disait la dernière fois, puisqu'il y avait l'idée des clés, hein, donc elle avait fermé son corps, et là il s'agirait qu'elle apporte son corps, qu'il faut entendre dans toute son incarnation, dans le sens le plus large du terme. Hein.
Alors le jeune prince arrive bien sûr au château de la Belle aux Clés d'Or, il fait comme lui a conseillé la jument blanche, et il va amadouer les géants, qui vont lui dire « Vous êtes meilleur que notre maître, il nous laisse crever de faim. »
Alors ça rappelle vraiment le début du conte, hein, puisque dans le début du conte, ici, on voit bien qu'il y avait... Dans le début du conte, on voit bien qu'il y avait quelque chose de similaire, puisque il y avait ce cheval gris et puis cette jument. Il y en avait un qui était un peu nourri, mais c'était pas terrible, et l'autre qui n'était pas nourri du tout. Donc là, le maître, on a envie de penser que c'est une figure là aussi diabolique. C'est peut-être le personnage qui était au fond de l'eau tout à l'heure.
Oui, parce que c'est pas notre maîtresse. Hein. C'est pas, a priori, non. C'est pas la belle aux clés d'or. Ou alors
non. Non. En tout cas, ces géants qui ont l'air d'être c'est terrible ces géants parce qu'à la fois ils ont l'air d'être surpuissants et puis ils ont l'air d'être cantonnés au rôle de porter le château. Hein. Bon, donc voilà, c'est comme dans l'histoire du petit poussé où l'ogre, à partir du moment où il a enfilé ses bottes, ben d'un seul coup il est capable de courir très vite, mais il est même pas capable de rattraper le petit poussé et ses frères. Hein. Voilà, donc je crois que ici il y a une figure probablement aussi masculine. Et qui est assujetti à la puissance d'un féminin. Hein. Voilà. Dans l'inconscient, dans l'archaïque, j'espère que les auditeurs vont suivre, les figures féminines qu'on rencontre ont toujours cette double polarité, c'est-à-dire une polarité extrêmement vivante, c'est-à-dire si on l'intègre à l'intérieur de soi-même, eh bien on va pouvoir faire du lien, on va gagner ce féminin quand on est un homme, mais aussi une figure dangereuse, parce qu'il y a un féminin dangereux, par exemple dans une figure de femme fatale, de femme allumeuse, de femme qui va prendre le pouvoir partout, vous voyez ? Donc il me semble ici qu'il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire ces quatre géants seraient quatre figures masculines qui auraient été assujetties par le pouvoir de cette belle aux clés d'or, probablement un peu tyrannique.
Alors comme nous l'avons vu un peu plus tôt, eh bien les trois éléments vont être réunis pour le plus grand bonheur, entre guillemets, du roi, car l'histoire ne va pas s'arrêter là. La belle aux clés d'or, ses clés et son château arrivent au royaume du roi. Mais eh bien la suite, docteur Dominique Michel, il faudra attendre 15 jours pour la voir, car notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup.
Merci Simon, au revoir.